La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour tout le monde.
Je rends hommage à Yvan Amar.
Sincèrement, c'est une émission qui m'a rapporté beaucoup de choses. C'est une émission avec laquelle les auditeurs faisaient de l'apprentissage à distance.
Je me souviens, pour la première fois, quand j'ai écouté l'émission, j'ai donné l'étymologie des mots l'amont et aval.
Monsieur Yvan Amar, vous avez une très belle voix, surtout votre voix qui m'impressionne aussi, la façon dont vous expliquez les mots. Vous nous avez présenté tous ces bons moments, une émission extraordinaire. Merci beaucoup.
Bonjour, eh ben, en voilà une surprise en tout cas pour moi, parce que j'ignorais que toute l'équipe de la danse des mots avait préparé ce début d'émission avec des témoignages qui me mettent presque la larme à l'œil. Des témoignages donc, puisqu'aujourd'hui, c'est en effet la dernière émission de la danse des mots. La danse des mots s'arrête. La danse des mots est morte, presque vive la danse des mots, vive autre chose, puisque une émission va lui faire suite. Pascal Paradou, en fin d'émission, viendra de vive voix nous en parler. Fera sa première depuis l'Arménie à Yerevan lundi prochain. Mais auparavant, pour terminer pour la dernière demi-heure, et je vous assure, tous les jours, ce rendez-vous était la demi-heure qui passait le plus vite de la journée. Pour terminer cette émission que j'ai commencé avec Sophie Mallet pendant une bonne dizaine d'années, continuer avec Lucie Bouteloup pendant presque 9 ans maintenant, eh bien, aujourd'hui, pour cette dernière, deux personnalités qui sont déjà venus plusieurs fois dans les émissions, dans cette émission, deux Alain, Alain Mabankou et Alain Rey. Alain Rey, il est linguiste, il vient de faire paraître aux éditions Hermann Hommage aux mots, et Alain Mabankou, il est professeur et il est romancier et poète aussi, et il a fait paraître Les cigognes sont immortelles aux émissions du Seuil. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Au moins, je ne me tromperai pas de prénom. C'est extrêmement pratique. J'ai choisi exprès parce que je me trompe si souvent. Alain Mabankou, j'aimerais commencer par une petite question sur votre travail, sur votre dernier roman, qui est extrêmement drôle, émouvant et en même temps pédagogique, parce que il fait une sorte de petite histoire du Congo qu'on entend par le biais d'une voix enfantine. Est-ce que vous accepteriez de nous lire un petit extrait que je vous ai préparé, extrait donc de « Les cigognes sont immortelles ».
C'est au tour de Papa Roger de se servir. Et lui ne s'embête pas, il remplit son assiette parce que son ventre n'a pas oublié que nous n'avons rien mis dans la mouche depuis notre plat de l'après-midi et a été avalé en bonne partie par Mbwa Mabé, le chien. Je me sers comme Papa Roger et je ne perds pas de temps. Je mets la première cuillère dans la bouche. C'est tellement bon que je ferme les yeux. Tout mon corps tremble, il a peur qu'il n'y ait pas assez de nourriture pour satisfaire le cœur, le foie, le pancréas, l'intestin grêle et tout ce qu'on nous avait appris à l'école primaire pendant les leçons de sciences naturelles. Je me calme, je n'ai pas à m'inquiéter puisque tonton René et les deux autres oncles ont mangé leur caviar, leur saumon et leur dinde entière en dessert à l'hôtel Atlantic Palace. Ils ne vont pas aller loin, ils ne mangent que pour faire plaisir à maman Pauline, pas à leur estomac qui est fâché de passer de la nourriture des capitalistes noirs à la nourriture des quartiers populaires.
Merci bien Alain Mabankou pour cette lecture. On voit que c'est, comme on dit, un roman du jeu, un roman à la première personne. Mm-hmm. C'est Michel qui parle. Mm-hmm. Michel, ce n'est pas vous, mais c'est un peu vous. Ce Michel, on l'a déjà vu dans d'autres romans oui. à vous. Par exemple, Demain j'aurai 20 ans. Mm-hmm. La mère et le père de Michel ont les mêmes noms que votre mère et que votre père. Vous jouez donc un jeu trouble et assez intéressant avec l'autobiographie, et vous faites parler votre héros avec un discours, avec une parlure, disons, relativement enfantine. Ce qui m'a fait penser à l'art naïf. On parle peu d'écriture naïve comme on parle de peinture naïve. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? J'ai eu l'impression que vous traitiez, en tout cas dans ce roman, peut-être un peu dans les autres, votre travail d'écriture comme si c'était de l'art naïf.
Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je reviens à une source où l'écriture aussi, c'est se rappeler ce qu'on a été, se rappeler son enfance, ne pas oublier qu'on a été un enfant. Pour écrire, il faut une dose très chargée d'innocence. Et cette dose, je l'ai condensée à travers les cigognes sont immortelles parce qu'il fallait que je convoque mon enfance, les saveurs, les gestes, les pagnes multicolores que portait ma mère, mais aussi ce que j'avais traversé dans mon existence. C'est pour cela que le personnage de Michel me ressemble, parce que je lui ai prêté mon enfance, si ce n'est lui qui m'a prêté l'enfance, parce que je suis déjà adulte. Nous sommes vraiment dans les années 70, avec tout ce qui arrive en Afrique, les turbulences, la joie, les danses, mais aussi tous les tracas, tous les problèmes politiques. C'est pour cela que je considère ce livre comme étant pour moi une sorte de testament pour cette jeunesse des années 70-80 pour éclairer les jeunes des années 2000 qui ne connaissent pas forcément l'histoire du Congo, mais aussi le regard des Africains sur l'Afrique et peut-être aussi des Africains sur l'Europe, mais aussi des Européens sur l'Afrique.
Alors c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un balancement entre cette naïveté sur laquelle je vous interrogeais. Vous reprenez avec ce mot d'innocence, ça me fait penser au mot anglais, on dit innocent art en anglais pour dire l'art naïf. Ça veut dire une certaine innocence et en même temps une certaine lucidité. Vous jouez entre un premier et un second degré.
C'est un roman clair-obscur, hein, c'est-à-dire que
il y a une exposition Caravage en ce moment à Paris.
Il y a cette exposition.
Ça va en faire une bonne introduction.
Si j'avais pris le costume de l'écrivain qui écrit tranquillement avec une certaine raison. Moi, j'aime écrire débarrassé peut-être de la veste de la raison. J'aime écrire laisser la plume s'en aller, laisser les mots se cogner les uns les autres, et peut-être même donner à l'enfance ce qu'on croit qu'elle n'est pas capable de posséder. L'enfant, c'est quelqu'un qui n'oublie pas. L'adulte, c'est quelqu'un qui oublie et qui cherche à se rappeler quelque chose dans l'espoir de résoudre les problèmes quotidiens. Et mon enfant, qui est à l'intérieur de ce livre, est quelqu'un qui cherchait pendant longtemps à retrouver ce paradis qui est devant lui, mais qui va disparaître face à peut-être au bazooka, j'allais même dire politique, qui va s'installer dans le Congo-Brazzaville.
Alors, ce sont à d'autres retrouvailles qu'on a à faire avec l'hommage au mot Alain Rey que vous faites paraître, donc, cher Mann. Vous n'êtes pas romancier, mais on a quand même aussi beaucoup de choses en commun puisque vous avez été longtemps chroniqueur radio. Avec une chronique très certainement différente de celle de RFI parce que sa radio n'était pas la même, c'était France Inter. Mais j'ai été très content de lire dans votre texte, justement, un souvenir de ce plaisir à travailler à la radio, et je vais en lire un petit extrait. Il ne s'agit pas, lorsqu'on parle des mots en chroniqueur ou en lexicographe, de les transfigurer, de les exalter comme le font les vrais écrivains et les poètes, mais de faire leur portrait. Ce portrait peut être intuitif, c'est celui du chroniqueur, de l'humoriste. Il peut être savant s'il est tracé par l'étymologiste ou le philologue. Il peut être libre, suivre les suggestions de l'usage ou bien être contraint par la recherche du bon usage. Il peut être plat ou spirituel, terre à terre ou poétique, mais quel qu'il soit, il révèle. Quoi qu'on dise à son propos, le mot manifeste ses pouvoirs, son inattendu, son mystère. Alors Alain Rey, est-ce que vous avez eu beaucoup de plaisir? Vous allez me dire oui, la question est mal formulée. Est-ce que vous avez travaillé pour les chroniques que vous disiez à la radio, comme vous travaillez en tant que lexicographe et pour faire vos livres sur les mots?
La réponse est non, justement, contrairement à ce que vous indiquez. C'est que pour faire mes livres, on est obligé de se plier au réel, c'est-à-dire faire un travail d'historien, qui est un travail extrêmement frustrant, parce que on passe à côté du mythe, on passe à côté de la poésie, et on est contraint de revenir à quelque chose qui est documenté et qui est strictement à répéter par rapport à une réalité très dure. Mais à côté de ça, il y a évidemment le plaisir de communiquer. Et le plaisir de communiquer concernant les mots, qui sont mon quotidien, et ça veut dire un très très vieux quotidien, croyez-moi.
Un assez vieux quotidien.
Ça veut dire que s'occuper des mots, c'est évidemment s'occuper d'autre chose. c'est s'occuper de leur sens, c'est s'occuper de leur dynamisme. J'ai une petite formule qui a été parfois retenue, qui est les mots sont des accumulateurs d'énergie. Et c'est vrai qu'en les reprenant, on peut en faire à chaque fois quelque chose de nouveau.
Et vous voyez, tout le monde veut vous parler, puisque vous avez, moi qui dis toujours aux gens, éteignez bien votre téléphone, j'ai oublié de vous dire, mais j'en profite alors pour demander à Alain Mabankou ce qu'il en pense.
Mais je pense qu'il a, Alain Rey a raison de dire que les mots sont des accumulateurs d'énergie, parce qu'on n'a jamais été aussi calorifique que lorsqu'on utilise le mot juste à la place qu'il faut et au moment où il faut. Et je pense que, en tant que un de nos grands défenseurs de la langue, Alain Rey a fait quelque chose d'extraordinaire.
C'est le saxophoniste Joey Omicil qu'on vient d'entendre dans La Danse des mots, saxophoniste haïtien qui se prête à l'art de la biguine, qui est né non pas vraiment en Haïti mais en face, ce qui nous amène justement à ce thème de l'aller-retour, de l'échange et de l'hybridation. Alors, puisque vous êtes ici tous les deux au micro de La Danse des mots, Alain Rey et Alain Mabankou, j'aimerais bien vous demander ce que vous pensez de cette langue française extraordinairement jacobine, centralisée. Est-ce que vous avez l'impression que depuis quelques années, elle se décentralise légèrement grâce à une vue plus francophone et moins franco-française ? Alain Rey.
L'adjectif francophone me gêne toujours parce que c'est Arben Jenoun qui me disait « Je ne suis pas un écrivain francophone, je suis un écrivain marocain qui écrit en français. » Et je pense que cette phrase pourrait être mise en exergue sur pour tous les écrivains qui, n'étant pas français, sont capables, mieux que la plupart des Français, de se servir justement des mots et d'en libérer l'énergie et en libérer toutes les possibilités, aussi bien de jeu, de gaieté, que d'angoisse et de difficulté. Je rends hommage à Alain Mabankou, pas seulement en tant qu'écrivain individuel, avec son style à lui, mais en tant que représentant d'une famille d'écrivains qui est indispensable à la langue française parce qu'elle la ressource. La langue française se ressource toute seule fort bien en France même, mais ça n'est pas suffisant. Parce que l'accès à d'autres manières de penser, à d'autres passés, à d'autres identités culturelles, est une chose que très peu de langues ont la chance de vivre. Il y a l'anglais, certes, et il y a des langues largement internationales, comme l'espagnol ou le portugais.
L'anglais a cette différence avec le français, que l'anglais n'est pas jacobin. Personne ne dit « le vrai anglais, c'est celui de Londres ». Beaucoup de gens vont dire « le vrai français, c'est celui de Paris ».
Il y a tout de même la folie et le mythe du King's English, qui n'est pas inactif en Angleterre, croyez-moi.
Il n'est pas inactif en Angleterre, mais il y a beaucoup plus d'anglophones ailleurs qu'en Angleterre,
Bien sûr. Non, c'est vrai qu'il y a une ouverture d'esprit vis-à-vis de la langue aux États-Unis que j'ai pu éprouver de près, mais il y a en même temps une espèce de désordre de la réception de la langue par rapport aux divers usages qui n'arrivent pas à se définir. Alors que je pense que le français international, j'aime mieux ça que francophonie, le français tel qu'il est parlé par des gens qui sont ou qui ne sont pas français, ça n'a strictement aucune importance. Et un de mes thèmes favoris, c'est de rappeler que les adjectifs qui désignent les langues sont homonymes des adjectifs qui désignent les ressortissant d'un État où
ce qui est extrêmement ambigu.
La langue n'est pas un passeport. Voilà. Et on est dans une langue quand cette langue a la chance, pour des raisons historiques d'ailleurs, dont nous ne sommes pas responsables, d'avoir une audience internationale et parfois mondiale, ce qui est le cas du français, les 5 continents. Eh bien, dans ce cas-là, c'est la possibilité que l'origine historique de la langue, qui se trouve en Île-de-France, pour la France, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous savez que pour une langue, 1000 ans, c'est pas terrible. Enfin, c'est une langue relativement jeune. Mais qui a été donc enrichie, et je dirais parfois précisée. Je pense à Sangor, que j'ai eu l'honneur et le plaisir de connaître. Et qui a été conduite à la fois vers plus d'incandescence au point de vue de l'expression littéraire et à la fois sur une ouverture à des manières de penser que le français, s'il était resté enfermé dans l'adjectif national, n'aurait jamais pu atteindre. Et il y a très peu de langues sur la Terre qui ont eu cette chance, et cette chance, elle est servie par les écrivains, par les poètes, et parfois par les politiques, ça arrive aussi exceptionnellement. Et elle nous apporte des choses très très étonnantes qui vont de l'Océanie, de la Nouvelle-Calédonie au Québec, en passant par une bonne partie de l'Afrique, le Maghreb. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait considérable, avec une richesse d'inspiration, une variété de thèmes et de registres littéraires que très peu de langues ont la chance d'avoir. Donc il ne s'agit pas de célébrer les mérites intrinsèques d'une langue, parce que toutes les langues sont égales, mais il s'agit de dire que celle-là a eu la chance de se nourrir, de s'enrichir, de s'émouvoir aussi, parce que c'est très important, au contact et avec la contribution des écrivains de langue française, encore une fois, que la francophonie, qui est un objectif politique sur lequel je me garderai de porter le moindre jugement, n'a pas...
Ouais. Alain Mavoncou, est-ce que vous avez les mêmes réserves qu'à l'arrêt sur le mot francophone? Parce que moi, je les partage, ces réserves, totalement.
Oui, ben, ma position, généralement, elle est connue en ce qui concerne la francophonie. Je veux dire que la francophonie contre laquelle je m'élève est toujours cette francophonie institutionnelle, parce que tout simplement, les dictateurs viennent s'acoquiner à l'intérieur, trouvent droit de cité, mangent des champagnes, mangent des boudins, je sais pas, pendant les réunions de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais ce qui compte, c'est la liberté d'une langue. C'est-à-dire que quand je m'empare de la langue française, je n'ai pas l'impression qu'elle appartienne à quelqu'un. C'est-à-dire que nous avons une marmite commune, comme un peu en Afrique de l'Ouest, lorsque je vois mes amis du Sénégal, ou on a une marmite commune.
C'est ça que je voulais vous demander.
On mange à l'intérieur.
Je voulais vous poser une question sur cette marmite.
Les mains nues. Mais il y en a qui veulent manger avec des fourchettes et des cuillères. Voilà.
Vous avez grandi à Pointe-Noire.
Même chose avec le couscous.
Hein. Voilà. C'est vrai, mais il faut encore savoir le prendre à trois doigts, parce que sinon, on se ridiculise et on s'en met jusqu'au coude. Vous qui avez grandi à Pointe-Noire, qui enseignez à l'université de Californie, qui avait enseigné au Collège de France à Paris, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dans une position plus mobile qu'un écrivain français, c'est-à-dire que vous avez en vous tout un espèce de passé linguistique du Congo, qui intègre le Lingala d'ailleurs, qui est une de vos langues, mais vous pouvez aussi aller chercher dans le français du Sénégal, du Québec, de Port-au-Prince, de...
Bien sûr, je pense que c'est peut-être l'avantage que nous avons, nous autres, qui venons des pays où on a reçu la langue française par le biais de l'histoire, donc de la colonisation. Nous avions déjà les langues locales qui sont autonomes, certaines ont une littérature orale ou écrite qui existe déjà. C'est-à-dire que lorsque j'écris en français et que je sens que dans la langue française, ce que je veux exprimer n'a pas d'équivalent dans ma langue ou vice-versa, c'est là qu'intervient la création. C'est là que les images peuvent venir et la création peut se passer à travers cette hésitation ou bien cette recherche entre plusieurs langues.
Moi, la création, c'est quand on bouscule le dictionnaire?
Je pense que le dictionnaire est là pour nous rassurer. Parce que le dictionnaire, c'est un peu comme le code de la route. Donc on sait, quand on vous dit vous allez conduire, ne mettez pas trop le coude par la fenêtre. Mais si vous savez déjà tout, vous êtes déjà un conducteur bien aguerri, mettre le coude va devenir votre style. C'est pour cela que je pense que ce qui importe, moi je préfère dire que nous sommes tous des écrivains dans cet imaginaire en français. Ça ne sert à rien de simplement dire écrivain francophone et penser au côté colonial que cela peut revêtir. Moi, je suis, je paraphraserai ce que vient de dire Alain Rey de Taher Ben Jeroun, je suis un écrivain congolais d'expression française. Et là, je n'hésite pas d'utiliser cette fois-ci expression française parce que ça fait partie de mon histoire. Je n'ai pas choisi d'avoir plusieurs langues et Dieu merci, je les ai. Eh ben, je les travaille à ma guise. Je mange avec une gourmandise insatiable.
Est-ce que vous avez l'impression, Alain Rey, que les dictionnaires suivent ce mouvement? Il y a beaucoup de dictionnaires qui, pendant très longtemps, étaient des dictionnaires de langue française, sous-entendu
oui,
de
enfin,
France. Ça change.
On a parfois une image très très restrictive des dictionnaires en parlant de purisme. C'est vrai qu'il y a certains auteurs de dictionnaires en France qui ont été puristes, mais ils ont été forcés de reconnaître la pluralité de la langue et ses emplois. Mon expérience personnelle, ça a commencé il y a 40 ans ou il y a 45 ans, quand on s'est mis à mettre des québécismes, des maghrébinismes au niveau du lexique tout simplement, mais ça ne suffit évidemment pas.
Est-ce que ça s'est fait facilement?
Non, c'est très difficile, il y a des réticences, parce que, bon, je ne vais pas dire du mal de l'Académie française, où j'ai beaucoup d'amis, mais...
Vous pouvez en dire du mal malgré tous les amis que vous y avez.
Non, parce que, justement, l'Académie française, sa dernière édition, il faut la regarder, est infiniment moins puriste que les précédentes. Il y a une ouverture qui est considérable, mais encore très insuffisante. Je m'en suis entretenu avec les responsables, et j'espère que ça va évoluer pour la prochaine édition, que je ne verrai pas, car vous savez qu'il faut attendre 70 ans pour avoir une édition.
Soyez tranquille, mon cher Alain, je ne la verrai pas non plus.
Alors que le Robert, c'est annuel, bon, tout de même.
Eh bien, un petit peu de musique pour terminer maintenant ce bout de danse des mots qui n'est pas encore absolument fini.
Va danser.
Oh, non, c'est pas possible. C'est pas possible, la danse des mots.
C'est la catastrophe si la danse des mots s'arrête. Yvan, c'est la danse. Ça rime d'ailleurs. Il y a une rime interne.
Yvan, il est sous ton nez, le livre.
Alors, Yvan, tu lâches les amarres. Mais tu sais, sur 2, 3 ou 4 temps, valse, tango, salsa ou begin, les mots vont bien sûr continuer à danser. Et de près ou de loin, dans la coulisse peut-être, en tout cas dans la mémoire, tu vas continuer à mener le bal. Allez, je t'embrasse.
Yvan, tu peux mettre ton casque, s'il te plaît?
Mais tellement érudit qu'il n'y en a plus beaucoup des hommes comme ça.
Yvan, où est-ce que t'as mis ton carnet? Non, ton carnet rose.
Cher Yvan, tu as fait danser les mots, les idées, les savoirs, et tu as conduit avec eux la plus belle des farandoles.
J'ai une petite recette de cocktail qui aura.
Et n'oublie pas que ce sera toi qui me conduira ce soir chez moi. Oh, garde bien la dernière danse pour moi.
Tu mèneras d'autres danses, car les mots, les idées, les savoirs ont besoin de ton enthousiasme généreux et de ta joie.
Yvan ! Bon, allez, ok, d'accord, ok. Mais non, je m'énerve pas, mais ça va quoi. Allez, je t'embrasse, ciao.
Cher Yvan, garde ton expression d'enfant émerveillé qui a toujours l'air de découvrir le langage dans les nouvelles aventures que tu vas vivre. Je t'embrasse.
Bon, mon cher Yvan, faut que je te raconte une histoire. Tu la connais peut-être déjà. C'est deux hommes, ils viennent de loin, et puis il y en a un qui regarde par terre, il voit un truc qui brille, il le prend, c'était un bout de miroir cassé, il regarde, il dit, il me semble que je connais ce type-là. Alors son copain lui dit, fais voir, il regarde le bout de miroir, il dit, évidemment que tu le connais puisque c'est moi. Voilà, c'était l'histoire que je voulais te raconter. Il y a toujours un autre quelque part. Je t'embrasse très, 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 très fort.
Donc moi, je suis très triste de ce départ. Hein. Franchement, ça va nous manquer énormément, 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 je le dis.
Allez, salut Yvan.
Garde bien la dernière danse pour moi. Garde bien la dernière danse pour moi.
Vous imaginez bien que je rougis d'émotion devant ce florilège qui ne vous a pas oublié à la Mabankou, puisque au centre, il y avait quand même un petit peu de verre cassé. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont préparé. Pascal Paradou, bonjour.
Bonjour.
Alors, la danse des mots s'arrête. Qu'est-ce qu'on aura à la place?
Ben, on aura une autre émission qui s'appellera De Vive Voix et qui reprendra un peu le flambeau. Mais après tout ce que j'entends, je me dis que j'ai quand même vachement de boulot à faire.
Ça va vous stimuler.
Ouais, non, mais enfin, c'est... Et puis, je voudrais surtout vous rendre hommage, Yvan, parce que tous les mots de générosité, de savoir, de générosité sont des mots qu'on a au quotidien partagés aussi dans cette maison, puisque je ne suis pas né de la dernière pluie et nous avons travaillé côte à côte pendant très très longtemps. Et voilà, je voudrais absolument vous rendre hommage parce que j'ai plus de cheveux blancs que vous, mais j'ai, je crois, un peu moins de talent. Donc voilà, j'espère juste être à la hauteur et puis faire en sorte que la passion des mots, la passion de la littérature soit intacte et que les auditeurs s'y retrouvent en élargissant peut-être un petit peu le champ avec des artistes, avec des ethnologues, avec bien évidemment des linguistes. Puis c'est la question du coude. Je ne sais pas où je vais mettre mon coude, si ce sera du côté droit ou du côté gauche, mais j'espère qu'au fil des semaines et des mois, j'arriverai à mettre mon coude et qu'on ne me parlera pas toujours d'Yvan Amar quand je me présenterai, mais ça a déjà commencé.
Oh, mais ça s'oublie très vite, ça. Je suis content que vous prononciez ce mot d'hommage, puisque en lisant le livre d'Alain Rey, Hommage aux mots, j'ai appris, ce que j'ignorais totalement, l'origine du mot hommage. On a 20 secondes, Alain, pour que je vous demande...
Oui, ben, hommage aux mots, c'est un peu un pléonasme, mais tout à fait volontaire, parce que l'hommage, c'est les hommes qui rendent leur devoir à des supérieurs sous la féodalité. Le vassal rend hommage à son suzerain.
Et pourquoi il lui rend hommage? Parce qu'il lui dit « Je suis ton homme ».«
Je suis ton homme ».
Donc « homme » et « hommage » sont deux mots de la même famille.
Absolument, tout à fait. C'est un dérivé direct et absolu. Ça s'est oublié rapidement. Et c'est ça, moi, qui me fascine et qui me passionne dans les mots, c'est que ça s'oublie d'une certaine manière, leur origine, mais leur origine est toujours secrètement active, ce qui leur donne un poids poétique constant.
Alors, vous voyez que avec cet hommage, on est bien parti. Vous serez mon homme, je serai le vôtre. Nous serons au coude à coude, Pascal. Je crois que ça s'appelle De Vive Voix.
De Vive Voix, parce que j'ai envie que ce soit une émission où l'oralité ait sa place, avec donc des poètes sonores, et puis qu'on fasse un peu la part belle aux cultures orales, puisque nous ne partageons pas tous la même passion pour l'écrit et la même histoire avec l'écrit. Donc, j'aimerais autant que faire se peut qu'on puisse entendre éventuellement des ethnologues, des poètes sonores, des gens qui travaillent sur la question de la transmission par l'oralité sans forcément passer par l'écrit. Donc vous voyez, on passe des mots à la voix, mais il y a quand même toujours cette passion de la transmission qui, j'espère, m'animera comme vous a animé pendant des années.
C'est intéressant, c'est cette cheville qu'on peut avoir entre l'écrit et l'oral. Et ce jeu, on peut dire, ce ballottement entre l'écrit et l'oral. Allez, le dernier mot à vous, Alain Mabankou. Est-ce que vous entendez vos livres quand vous les écrivez? Parce que je trouve qu'il y a une vraie qualité orale dans votre écriture.
Ben, je viens de la tradition orale, donc je pense que ma littérature aussi est très très orale et que quand j'écris, c'est beaucoup plus dans les mots qui sont parlés que qui sont écrits. Donc je pense que on est en pleine oralité. Je vois que
Pascal,
le
studio s'est rempli. Je voulais juste dire d'abord que je suis persuadé que vous allez écrire très très vite plein de choses et que vous serez le premier invité de Vive Voix. Je veux l'exclusivité. Et puis surtout, on vous retrouve encore sur l'antenne avec le mot de l'actu tous les matins. Et c'est un grand rendez-vous pour les auditeurs. Et ça reste formidable que vous soyez non plus dans l'émission, mais encore sur l'antenne avec ce mot de l'actu. Donc je n'ai qu'un mot, je ne sais pas quelle est son origine, mais merci Yvan.
Eh bien. Ben merci encore. Mon cher Pascal, je te donne les clés du studio. Je pense qu'en 38 ans de radio, c'est la première fois que je m'autorise à tutoyer quelqu'un à l'antenne. Moi, j'ai le droit, puisque j'arrête la danse des mots, mais pas vous.
T'étais le meilleur, Yvan.
La danse des mots. Donc, pour cette dernière, une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI, Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amar.